Donc on va écouter tout d'abord Clemens Zowel qui va faire une intervention sur, je dis le titre, l'engagement associatif des jeunes migrants et descendants de migrants d'origine subsaharienne, deux points, politisation émergente ou dépolitisation néolibérale. Et donc nous allons vous entendre pour 20 minutes, tout de suite.
Merci.
Merci beaucoup. Merci d'avoir organisé cette journée. Je voudrais tout de suite dire que je suis très content que Daniel soit là et Catherine Neveu. Alors, pourquoi Catherine Neveu particulièrement? Parce que ce que je vais présenter, c'est un peu mon interprétation, mes conclusions par rapport à une enquête collective que nous avons... c'est-à-dire nous, quelques étudiants des masters du département sciences politiques, un autre chercheur universitaire qui est Jean-Luc Dumont, que nous avons fait en partenariat avec une association qui s'appelle GRDR, Migration, Citoyenneté et Développement. Et Catherine a aussi justement travaillé avec cette organisation, je crois sur des enjeux éducatifs, mais bon, Catherine va me corriger. De toute manière, donc ça tombe très bien qu'il y aurait deux personnes qui ont un rapport avec cette organisation. Alors, c'était une étude qui était financée par le ministère des Jeunesse et Sports et qui portait sur l'engagement des jeunes, l'engagement associatif des jeunes d'origine subsaharienne. Donc, il y avait une articulation avec la problématique migration. Il y avait des questionnaires, mais on a aussi recueilli des histoires de vie et organisé des focus groups. Et dans ce que je vais présenter ici, j'épuise donc davantage dans les histoires de vie et dans les débats des focus groups. Sur les questionnaires, on peut revenir, mais ils n'ont pas servi à beaucoup de choses. Je peux appeler et expliquer pourquoi. Alors notre univers d'enquêter, c'était alors c'est quand même important parce que voilà l'univers de ces descendants des migrants ou directement migrants originaires de l'Afrique subsaharienne vivent souvent dans des quartiers donc avec un chômage considérable, ça peut atteindre les 40% pour les jusqu'à 26 ans. Mais notre univers, comme par hasard, qui portait donc sur les engagés et pas les non engagés, était très fortement dominé par les diplômés. C'est-à-dire que nous avons parmi nos informateurs et informatrices surtout des diplômés et surtout des leaders associatifs. Donc il y a ce biais, un peu ce biais dans ce que je vais présenter. D'une façon prévisible, de quoi s'agit-il dans ma communication, c'est de savoir dans quelle mesure ces formes d'engagement qui nous ont relevées dans notre enquête pourraient être considérées comme des formes de politisation. Donc la liaison entre action individuelle et collective dans l'identification et les traitements des problèmes d'intérêt public rapproche l'engagement à la politisation au sens plus large. Cette affinité se confirme si on considère que la convergence des transformations actuelles dans la vie politique et dans l'engagement associatif est commun. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui se ressemblent par rapport à l'engagement politique et l'engagement associatif. Cette convergence elle est notamment caractérisée par un déclin d'investissement des jeunes dans les institutions politiques conventionnelles, mais qui ne signifie pas forcément absence de politisation, mais son déplacement vers d'autres modalités d'action. Et alors ici, les études qui portent justement sur les engagements associatifs des jeunes font état d'une augmentation des actions des bénévolats, c'est-à-dire les jeunes, ils s'engagent même plus dans les domaines associatifs, 32% plus entre 2011 et 2013 selon une étude, tout en constatant que ces actes d'engagement se traduisent de moins en moins par un investissement durable dans des organisations stables à projets idéologiques bien définis. Donc il y a justement cette caractéristique précaire ou caractéristique temporellement à mi-terme ou à court terme et pas à projection long terme et pas défini clairement associé à un projet idéologique. Les fonds d'investissement se multiplient, s'inscrivent dans les courts termes, comme je viens de dire, et font usage des réseaux sociaux sur Internet. Donc c'est fortement souligné ce rapport aujourd'hui entre engagement dans des espaces de face à face, si on parle des associations, mais l'important c'est l'espace virtuel. Corollaire de ces transformations et une mutation au sein des rapports et normes sociaux, dans lesquels la figure du sujet responsable, autonome et réflexif s'impose aux dépenses d'un individu dont les modes d'action et d'identification restent davantage structurés par les liens au collectif préexistant. C'est-à-dire qu'il est donc responsable, autonome et réflexif, mode de subjectivation, norme qui met justement en avant un engagement qui fait preuve ou qui donne la preuve d'une forme d'individuation, de mettre en scène la performance de quelque chose de singulier au lieu de tout de suite s'identifier à un collectif qui serait déjà constitué. Alors, la question, ça c'est un constat un peu global. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on peut transposer ces observations à l'univers que nous avons étudié, donc les jeunes migrants et descendants des migrants? Est-ce que leur situation n'est pas différente à cause des discriminations dont ils font l'objet, racisme, taux de chômage élevé, etc., par les effets d'une socialisation qui continue à valoriser les hiérarchies, âge, genre, origine sociale? L'hypothèse de départ est que les effets de la norme sociale d'individualisation se font sentir ici comme ailleurs. Dans une forme de subjectivation que Ulrich Beck désigne comme individualisme réflexif, l'individu est obligé de s'interroger sur le sens de ses actes et identification là où les appartenances vont de moins en moins de soi. Il doit s'émanciper des liens hérités tout en faisant preuve de ses mérites et qualités personnelles. Ici, les liens sociaux tissés à travers l'engagement associatif peuvent appuyer la constitution d'un projet de vie singulier. Une forme d'individualisation qui semble refléter les normes libérales d'autonomie et responsabilité. Donc d'où les titres, quand même la problématique un peu, c'est cette question politisation en voie d'émergence ou dépolitisation, un peu comme Michel Kokoreff l'avait évoqué, dépolitisation néolibérale, parce qu'on sauterait tout de suite sur cette idée d'autonomie et responsabilité, donc une espèce d'individualisme qui pourrait interroger les liens au collectif, au projet collectif. Je pense aussi que c'est important, projet des vies singuliers, les termes même des projets, donc la problématique des temporalités qui viennent aussi d'évoquer dans la présentation et qui se marient très bien avec la question de la reproduction et de l'intergénérationnalité. En ce qui concerne la question de la politisation, les constats doivent pourtant donc être nuancés. Il est possible de parler des formes de politisation émergentes une fois que les engagements en question s'orientent seulement en partie vers les institutions représentatives conventionnelles, donc ça fait aussi écho à la présentation. Certes, il y a certains de ces leaders que nous avons étudiés qui ont été cooptés par des pouvoirs locaux, par des pouvoirs municipaux. Et il y a aussi un engagement politique formel de certains, notamment dans le cadre de la décentralisation malienne. Donc il y a aussi cette spécificité dans ce que je présente ici, qu'on est à cheval, on est dans un espace transnational, on est en France, mais on est en même temps dans d'autres pays, soit d'autres pays européens, ou soit d'autres pays africains, et il y a un fort biais sur le Mali. Cette politisation des jeunes migrants et descendants des migrants est tout d'abord intracommunautaire. Donc, première forme, ce qu'on pourrait dégager des politisations, c'est qu'il y a une forte démarcation des idées, disons, par rapport aux idées et par rapport aux manières de faire des parents et des aînés. Donc, certains de ces jeunes, justement, ont créé leurs propres associations ou créé plusieurs associations. Et donc, il y a là, justement, d'emblée, une posture discursive à l'égard des hiérarchies d'âge, des hiérarchies des genres ou des hiérarchies des castes. Et ces engagements se croisent en même temps avec d'autres, dont le défi est, à mon sens, de saisir leur signification ambivalente dans les contextes de nouvelles politiques publiques d'inspiration libérale. Donc, cette première forme de politisation qui concerne donc les rapports sociaux à l'intérieur intracommunautaire, si on pourrait dire, m'intéresse ici moins que celle qui concerne justement ce qui est un peu transversal, ce qui sont un certain type de politique publique aujourd'hui et une certaine forme de subjectivation qui a justement un lien à une économie libérale. Donc en question, et ce qui est frappant tout de suite si on étudie le discours de ces leaders, c'est l'abandon d'une posture militante consistant à interpeller les institutions politiques pour obtenir des droits et dénoncer leur discrimination en faveur d'une orientation fondée par une idée d'autonomie, d'autoresponsabilisation et les refus d'une identité des discriminés ou marginalisés. C'est-à-dire que moi, je me suis trouvé justement en porte-à-faux dans un discours de cadrage. Souvent, on demande aux enseignants-chercheurs de faire le cadrage. Et mon cadrage était justement à côté de la plaque, parce que j'ai parlé des discriminations, j'ai parlé des questions des droits, j'ai parlé des questions de la responsabilité des pouvoirs publics de financer les associations, etc. Et c'était totalement à côté du discours que j'ai entendu dans ce forum-là, où j'ai fait ma présentation, où c'était justement l'autonomie et l'autoresponsabilisation des acteurs qui étaient centrales. Donc, ça veut dire que ça se manifeste à travers une réorientation de la vie associative vers des questions d'insertion professionnelle et d'adaptation et promotion d'un éthos et d'un savoir-faire entrepreneurial. Donc ça veut dire que dans ce que les GRDR fait aujourd'hui, je peux après expliquer qu'est-ce que c'est les GRDR plus en détail, mais il y a un fort tournant de ce monde associatif vers la question d'insertion professionnelle. Et évidemment, ici, ça joue directement aussi avec ce type de politique publique qui fait un peu le outsourcing, hein, c'est-à-dire que ce que les pouvoirs publics ne peuvent plus faire et ne peuvent plus financer, c'est les associations qui devraient maintenant les faire. Mais est-ce que c'est simplement ça? C'est aussi une question à laquelle il faut essayer de répondre. Cette réorientation peut facilement être identifiée comme les miroirs des politiques publiques, voilà, comme je viens de dire. Mais on peut aussi penser évidemment au tournant des luttes contre les discriminations vers la promotion de la diversité portée en grande partie par les entreprises. Peut-on alors conclure qu'ici les engagements actuels des jeunes témoignent d'une forme de dépolitisation néolibérale? La situation est sans doute plus complexe si nous considérons que cette prise en main par l'adoption d'un ethos entrepreneurial alimente en même temps l'idée de la construction des biens communs, des formes de solidarité qui refusent la dépendance des parents et des pouvoirs politiques, tout en cherchant de créer des collectifs basés sur la circulation des biens matériels et immatériels et des services. Portés par l'usage des réseaux sociaux, ces collectifs possèdent une forte dimension transnationale en cherchant à réaliser et valoriser une double inscription d'ici et bas, comme je l'avais déjà dit. Se manifeste ici un schéma qui rappelle à certains égards les mobilisations des African Americans aux États-Unis des années 90. Je pense ici par exemple au Million Man March à Washington organisé par les Nation of Islam. Faisons appel aux responsabilités de chacun dans l'amélioration de sa situation et celle de la communauté. Dans cette perspective, nous assistons à une superposition entre biens privés et publics qui se manifeste sous la forme d'un rapprochement entre l'engagement associatif et entrepreneurial. Selon Fatoumata Sidibé, une jeune franco-malienne trentenaire, fondatrice de la société eMarket Africa, je cite, « On se dit, ah bah non, c'est une entreprise, forcément c'est économique, forcément c'est du bénéfice. Ce n'est pas vrai. Le fait juste d'embaucher des personnes qui gagnent leur salaire une fois par mois et qui peuvent subvenir aux besoins de sa famille, je suis désolé, c'est une base. » Je vais insister, mais pour moi, je pense que l'association et l'entreprise, ça n'est fait qu'un aujourd'hui. Fin de citation. Dans cette perspective, l'essentiel n'est pas savoir s'il s'agit d'une entreprise privée ou d'une association, mais de souligner qu'il s'agit des manières de résoudre des problèmes collectifs ou, comme Fatoumata l'a dit, de répondre à des nouveaux besoins. Le réseau est selon elle caractérisé par une volonté de, je cite, « consommer responsable », c'est-à-dire de privilégier des biens et des services offerts par ses membres. Répondre à des besoins, consommer responsable sont des termes dont la signification devient plus claire si nous considérons deux objectifs clés de cette entreprise. Premièrement, offrir des colis avec des produits d'alimentation livrés au Mali sur commande en France. C'est là pour aider les familles de maîtriser leurs coûts pour se nourrir et permettre à celles et ceux qui soutiennent leurs familles dans les pays d'origine d'avoir une emprise sur la manière dont leurs dons sont dépensés. Deuxièmement, fournir des aliments aux parents qui sont rentrés au pays après avoir pris leur retraite, leur permettant d'avoir un style de vie qui prend en compte les habitudes et goûts qu'ils ont acquis en France. Dans les deux cas, il s'agit de créer localement des emplois et de favoriser des fournisseurs écologiquement et socialement responsables. Il faut ici, évidemment, insérer aussi dans ce discours la question, justement, du don et du contre-don. Les liens que ces gens font, avec lesquels nous avons travaillé, font entre l'entreprise et les collectifs, et aussi l'association, que celui qui est entrepreneuse ou entrepreneur est en même temps dans une posture de don, peut donner des choses dans une autonomie. Alors, dans une autonomie par rapport à qui ? Ben, dans une certaine autonomie par rapport à leurs aînés, dans une autonomie par rapport aux États, alors par rapport à l'État ici et par rapport à l'État là-bas, au Mali, d'occurrence. Et alors, la deuxième chose qui me semble importante, donc la question du don, deuxième chose, la pratique instituante. Hein, c'est-à-dire que ces sujets dont il est question sont des sujets qui ont une pratique instituante, dans le sens, ce sont des créateurs des associations qui ont différentes fonctions, on peut en reparler plus tard, mais qui instituent aussi des idées d'entreprise, mais des entreprises qui ont donc toujours cette dimension aussi collective. Le principe de l'entraide par une prise en main des processus de production et de consommation est associé à l'utilisation des réseaux sociaux, comme je l'avais déjà évoqué, mais aussi appropriation des techniques entrepreneuriales nées dans des grandes entreprises multinationales. On parle ici notamment du principe du marketing en réseau. Fatouma Tassidibé retient ça de son expérience dans le groupe Accor. Ces mêmes références, on les trouve donc, c'est assez représentatif le profil de Fatouma Tassidibé. Donc il y a un tas de jeunes là qui ont souvent des diplômes dans des formations qui concernent les entreprises, le marketing, etc., et qui transposent ce savoir-faire dans un autre secteur qui est donc les secteurs associatifs et ces entreprises qui crée. Alors, je vais présenter un deuxième cas qui est Boubacar Traoré, qui est aujourd'hui consultant indépendant auprès du gouvernement malien et qui lie aussi explicitement engagement entrepreneurial et associatif. Il conçoit les rapports entre associations et entreprises sous la forme d'une étroite complémentarité. Je cite. 5 minutes.
D'accord.
Oui, ça va. 20. Je pense que oui, le développement de l'Afrique viendra des entrepreneurs, ça c'est certain, mais il faut que l'entreprise soit adossée à une association. Ce sont les associations qui permettent aux jeunes entrepreneurs d'ajuster leurs projets aux réalités sociales. Il y a un réseau de compétences au sein des associations là qui permet à la personne d'éviter un certain nombre de pièges. Toujours citation. Fin des citations. Référence est ici faite aux aspirations de nombreux jeunes, donc de créer leur boîte, etc., mais qui n'ont pas la vision réaliste des difficultés. Et selon Boubacar Traoré, donc, ces liens à l'association, ça crée justement les liens au collectif, mais ça crée aussi les liens à des possibles consommateurs de leurs services ou de leurs produits. Dans cette figure de Boubacar Traoré, c'est aussi intéressant par rapport à l'intergénérationnalité, parce que c'est quelqu'un qui est plus vieux et qui aspire aussi à cette position de menteur, c'est-à-dire mentor, pas celui qui dit des mensonges, mais celui qui encadre des projets des jeunes. Et d'une façon générale, en effet, tous ces acteurs conçoivent leur action comme une forme de transmission aussi, donc de prendre en charge d'autres jeunes et donner donc leur donner une opportunité de se construire un projet. Donc il y a toujours ces liens entre projets, forme de subjectivation. Évidemment, ce qui est aussi toujours revenu dans notre enquête, c'est la reconnaissance qui en découle de la possible activité.